Il y a quelque temps en arrière, nous avions vu que l'Église était une maison de prière. Combien, dans la bouche du Seigneur Jésus, c'était une réalité qui était forte quand il a voulu établir l'Église, c'était pour en faire une maison de prière. L'Église, c'est aussi la famille, la maison de Dieu, la famille où nous avons ces relations entre nous qui nous permettent d'être forts dans l'épreuve. Ce matin, je voudrais voir cette réalité que l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Nous allons lire un premier texte. Et ça va être très facile à trouver dans Genèse chapitre 2. Dans la Genèse, nous voyons le récit de la création de l'homme et de la femme. Et vous voyez que pour l'homme et pour la femme, c'est pas de la même manière que ça s'est fait les choses. Genèse chapitre 2, le premier verset, c'est le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Ça, c'est pour l'homme. Deuxième chose, la femme, au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. La question que je me suis posée la première fois que j'ai lu ce texte, c'est je me suis dit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait les deux personnes en même temps? Est-ce qu'il n'aurait pas pu souffler sur la poussière et faire à la fois un homme et une femme? Est-ce qu'il n'aurait pas pu? Bien sûr qu'il aurait pu. Il est Dieu, il est tout puissant. S'il l'a fait pour l'homme, il peut le faire pour la femme. Mais en fait, derrière cette façon de faire, il y a une image de ce que Dieu voulait faire au travers de Jésus-Christ et de l'Église. La façon dont l'homme a été créé, c'est une image aussi de la façon dont Jésus-Christ est venu sur la terre. Dieu a soufflé par son esprit sur la poussière de l'humanité, ce qui a permis que Marie engendre un homme qui était le Fils de Dieu. Et cet homme a choisi de mourir à la croix. Il a choisi de fermer les yeux pendant son sommeil de 3 jours. L'Église a été engendrée. C'est ça qui s'est passé. Et cette image qui est là nous montre ce que Dieu voulait faire, la façon dont Dieu voulait créer l'Église. Dieu ne voulait pas créer l'Église de la poussière de la terre, il voulait créer l'Église en provenance de son Fils. Amen. Et si nous pouvons aujourd'hui, si l'Église partout dans le monde, pas seulement à Moissac, peut aujourd'hui être en pleine forme, en vie, et faire des progrès et avancer, quand je parle avec des pasteurs de différentes régions, je vois que le Seigneur est en train, en ce moment, en France, alors que les médias ne l'en parlent pas du tout, mais il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur, il y a des personnes qui sont interpellées dans leur cœur par rapport à leur éternité, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Parce que l'Église est vivante, mais si l'Église est vivante, c'est seulement pour une seule raison, parce que Jésus est vivant. Quelle erreur ce serait de vouloir construire l'Église en occultant le fait que Jésus est vivant, en ne dépendant pas de Jésus. La façon dont Ève a été créée, c'est une image de la façon dont l'Église a été créée et dans la façon dont l'Église doit vivre en dépendance avec Jésus-Christ. On va lire ce texte dans Éphésiens. Ça, c'était juste l'introduction. Mais dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, nous voyons justement, qu'est-ce que cela implique ? Éphésiens, chapitre 4, et le verset 16. Il est dit ceci, « C'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. » Je vous le lis en français courant pour que ce soit peut-être plus clair encore. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Amen. Dans ce verset, nous voyons les 3 choses qui sont importantes quand nous considérons que l'Église, c'est le corps spirituel de Jésus-Christ. Ce n'est pas un rassemblement au hasard, mais c'est le corps spirituel de Jésus-Christ sur la terre. Le Seigneur Jésus est au ciel, mais sur la terre, son corps spirituel est là. Et c'est chacun de nous qui sommes rentrés dans ce corps. Ce que nous voyons, c'est que les membres sont bien unis. Il y a une façon dont nous sommes intégrés au corps de Christ, que nous devenons membres du corps de Christ. Ce que nous voyons, c'est que chaque membre, il a une fonction, il a sa place. Et nous devons chercher devant Dieu à trouver notre place dans le corps de Christ. Et la troisième chose que nous voyons, c'est qu'il y a une progression, il y a une croissance, il y a un développement qui se passe quand tout est bien coordonné, quand chacun est à sa place et quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande, alors il y a une progression. Et ce verset, c'est un petit peu le plan de ce message. Comment est-ce que nous devenons membres du corps de Christ? Parce que avant de parler de service, avant de parler de la place, de la fonction que l'on peut avoir dans le corps de Christ, il faut savoir si on est membre du corps de Christ. Ça serait une erreur que de faire plein de choses pour Dieu sans avoir la certitude que l'on appartient au corps de Christ. Vous êtes d'accord? Ça serait totalement une erreur. Aujourd'hui, dans notre monde, on comprend bien ce mot, le corps. Il y a beaucoup de corps aujourd'hui dans notre monde, de corps de rassemblement de personnes, le corps médical, le corps militaire, le corps des pompiers. Et on pourrait multiplier tous les corps des forces armées qui sont là. Et quand on rentre dans ces corps-là, ben on fait partie d'une entité et il y a une unité, il y a comment dire, un respect, il y a toutes sortes de choses, de relations qui sont tissées dans ces corps qui ne sont que physiques. Vous êtes d'accord? Mais le corps spirituel du Seigneur, le corps de Christ, comment est-ce qu'on fait pour y être intégré? Quel concours il faut passer? Pour être docteur, il faut faire des nombreuses années d'études. Pour être sapeur-pompier, il faut passer des concours, des épreuves physiques, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le corps spirituel? Se prier, alors se convertir, oui. La repentance et la conversion. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut être intégré à ce corps de Christ, il faut qu'il passe par ces étapes de la repentance, de la conversion, de la nouvelle naissance. Et je voudrais ce matin rappeler que c'est pas parce qu'on croit que Jésus a existé un jour qu'on est intégré au corps de Christ. Il y a plein de gens, même des athées, qui croient que Jésus a existé un jour, de manière historique. Il y a trop de preuves qui attestent que c'est le vrai. Mais combien savent qu'il a donné sa vie pour eux? Combien vivent avec cette réalité qu'il est vivant aujourd'hui? Ça, c'est différent. Ce n'est pas le fait de s'asseoir dans l'église qui permet d'intégrer le corps de Christ. Ce n'est pas le fait d'entendre la prédication. Ce n'est pas le fait de chanter des cantiques qui permet de rentrer dans le corps de Christ. Ce n'est pas le baptême dans l'eau même. Vous savez qu'au moment où on baptise dans l'eau, c'est pas là où la personne rentre dans le corps de Christ. Ce n'est pas le moment où on vous donnera votre carte de membre de l'Église que vous allez rentrer dans le corps de Christ. La seule chose, c'est ce qui a été dit, c'est cette repentance, cette conversion, le fait de voir son péché, de reconnaître que ce péché, il nous sépare de Dieu et qu'on s'en détourne, et c'est ça la repentance. Et le fait de se convertir, c'est de voir la vie avec Dieu, combien elle est merveilleuse, Jésus notre maître, et de le choisir de le suivre, ça c'est la conversion. Et quand on passe par ces étapes, alors, automatiquement, par le Saint-Esprit, nous sommes intégrés au corps de Christ. Il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, qui nous le dit, et c'est vraiment dans le contexte du corps. Comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Et on pourrait dire soit homme, soit femme, soit blanc, soit noir, soit n'importe quelle couleur. La seule condition qui nous permet d'être intégrés au corps de Christ, c'est ce qu'il a été dit. Nous avons été baptisés. Alors, certaines versions marquent dans un seul esprit, mais quand on étudie plus en détail la parole, nous avons été baptisés par un seul esprit. Le baptême qui nous permet d'être intégrés au corps de Christ, c'est le baptême en Christ. Ça s'appelle la nouvelle naissance. La Bible parle des différents baptêmes. Ça, on pourrait faire une étude longue sur ces sujets. Mais il y a le premier baptême de tous, c'est le baptême en Christ. Justement, ça nous parle de cette image où une personne, un individu pécheur, est purifié, pardonné et il est intégré au corps de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette démarche. Rien à voir avec le baptême dans l'eau. Ou ça, c'est le baptême dans l'eau, ce n'est que le symbole de ce qui s'est passé. C'est le symbole que j'ai choisi d'appartenir au Christ. En tout cas, Quand je nais de nouveau, c'est ce qui me permet d'être intégré au corps de Christ. Et la question, mes amis, que je vous pose, que Dieu nous pose à tous, c'est: est-ce que je suis membre du corps de Christ? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai l'assurance que dans le ciel, il y a une place pour moi? Jésus est en train de préparer une place. Mais il prépare pas une place pour toute la terre. Il prépare une place pour tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous voulons partager. S'il y a bien une bonne nouvelle que nous voulons proclamer autour de nous, c'est cette nouvelle, que Jésus est en train de préparer une place. Et on voudrait tellement que tous ceux qui nous entourent puissent avoir aussi leur place préparée, avoir aussi leur nom inscrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que ça fait quand on parle de nouvelle naissance, quand on parle de naissance spirituelle? Eh bien, ça implique un sentiment d'appartenance. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, nous dit Romains 8, 16. L'Esprit en nous rend témoignage. C'est pas où on essaye de s'auto-persuader qu'on est sauvé, mais il y a une paix dans notre cœur par rapport à l'éternité. On sait que peu importe ce qui peut arriver sur la terre, on est en paix. Parce que si le Seigneur choisit de nous reprendre, il sait le moment, mais on ira avec lui. Et des fois, les gens essayent de trouver des assurances, de trouver des choses qui vont pouvoir leur faire moins craindre l'avenir. Croyez-moi, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de savoir que vous êtes sauvé. Que l'Esprit rende témoignage à votre esprit, que vous êtes l'enfant de Dieu. La naissance spirituelle, ça implique une différence par rapport à ce qui est passé. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais c'est pour qui? Si quelqu'un est... en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est devenu membre du corps de Christ, alors toutes les choses du passé sont effacées. Toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce qu'il n'y a pas dans votre passé, est-ce qu'il n'y a pas dans mon passé des choses qu'on aimerait que ça n'ait jamais existé? Je crois qu'on est tous logés à la même enseigne. Et vous croyez pas que le Seigneur sait ce qu'il veut faire dans notre vie? Et justement, quand on se donne à lui, c'est ce qui se passe de lui-même. Si on lui apporte ces choses, si on répare, si on demande pardon, si on se repent, eh bien, le Seigneur, il efface. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Notre caractère ancien est passé même. Toutes choses deviennent nouvelles. Parce que le Seigneur est puissant pour accomplir ces choses. Mais c'est la condition, c'est que si quelqu'un est en Christ. Quand il y a une naissance spirituelle, il y a aussi une ressemblance spirituelle. On ressemble de plus en plus, que nous le voulions ou non, on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ, spirituellement, pas physiquement bien sûr, mais spirituellement. Notre caractère est transformé. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Plus je marche dans la vie de l'Esprit, plus mon caractère est façonné pour que je ressemble à mon Seigneur. Et je manifeste le caractère qui était en Jésus-Christ. Je manifeste les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on est d'accord pour dire qu'il y a du chemin, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour chacun de nous, mais c'est pour ça que le Seigneur aussi nous laisse sur la terre, pour que nous puissions avancer dans ce cheminement-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les jours un peu plus, le Seigneur nous appelle à faire des progrès. Imaginez un enfant qui ne ressemble pas du tout à ses parents. Ça crée des problèmes. Ça s'est déjà arrivé, parce que la génétique s'en est mêlée, qu'un enfant noir naisse dans une famille de personnes blanches. Et ça a créé des tensions, forcément. Mais c'était une histoire de génétique. Ça a pu s'expliquer par la science. Mais qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'on est né de nouveau et qu'on ne ressemble pas à notre Seigneur? Eh bien, on bafoue le nom de Dieu. Et le Seigneur nous invite à avoir cette certitude que nous sommes nés de nouveau. Il nous invite à passer par ces étapes de repentance et de conversion. Et c'est pas quelque chose qui est pour de loin. Ah, il y a longtemps en arrière, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, je me suis repenti, je me suis converti. Très bien, merveilleux. Et c'était quand la dernière fois que vous l'avez refait? Parce que c'est tellement important. Si nous voulons avoir une fraîcheur dans notre relation avec Dieu, il nous faut passer jour après jour, je dirais, presque minute après minute, par ces dimensions de la foi où je me repens, Seigneur, tu vois ma vie, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, toutes les belles choses que nous avons pu dire le jour de notre baptême, tous les jours nous voulons les redire, parce que tous les jours nous nous engageons à marcher avec le Seigneur. Ça, c'est l'intégration au corps de Christ. Maintenant, la mission, ce que le membre est appelé à faire. On peut lire dans Romains, chapitre 12, je vous prends les textes les plus connus, hein, vous les connaissez bien, j'imagine, mais c'est bien de les relire, les textes qui nous parlent du corps. Romains, chapitre 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Et on pourrait continuer une liste de toutes les choses que l'on peut faire au service de Dieu, mais vous voyez que dans ce passage, déjà, il y a une ébauche de cette liste, des choses que nous pouvons faire, apporter une prophétie, servir le Seigneur, parce que c'est là le mot ministère, c'est le mot service, exhorter, donner, présider, pratiquer la miséricorde. Est-ce qu'il faut des diplômes pour faire ces choses ? Non, c'est des choses qu'on reçoit de Dieu, qui nous met sur le cœur de fer et qui nous permet d'aller de plus en plus en maturité pour les communiquer à nos frères et sœurs. Le but, c'est que ce membre qui est placé dans le corps puisse avoir la fonction que Dieu a choisi qu'il ait. Et ce qui est remarquable dans les passages que nous avons lus, c'est l'image avec Adam et Ève. L'image avec Adam et Ève, elle est belle, mais elle a ses limites. Qui c'est le cerveau dans le couple ? C'est souvent la femme, vous avez remarqué ? C'est souvent la femme qui est le cerveau et l'homme c'est les muscles. Mais quand il s'agit du corps spirituel du Seigneur, c'est lui la tête. C'est lui qui donne la direction, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui sait de quelle manière il faut faire. C'est lui qui a la sagesse infinie et merveilleuse. Et c'est envers lui que nous devons dépendre pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est Dieu lui-même qui doit placer chaque croyant là où il le veut. Et ce n'est pas forcément mes qualifications humaines qui déterminent mon service. C'est pas parce que dans le passé, je prends un exemple qui est pas vrai, hein, mais dans le passé j'étais une star de rock à guitare électrique, que dans l'église je dois jouer la guitare électrique forcément. Comprenez ? Parce que peut-être que dans l'église où je vais me convertir, il y aura déjà des gens qui font cela, et le Seigneur m'appelle à, je ne sais pas, à faire l'accueil peut-être. Comprenez ? Regardez, je vous prends un exemple encore mieux de la parole. Moïse, à un moment donné, à 40 ans, il était puissant en œuvre, puissant en parole. C'était un homme qui avait de la prestance, qui avait du charisme. C'était un homme qui avait de l'éloquence. Et là, je essayais de faire ce que... Il savait qu'il y avait quelque chose sur sa vie, mais il a essayé de le faire par ses propres forces, en dépendant de ses qualités humaines. Résultat, il a tué un homme. Il s'est bien planté. Et puis, Dieu l'a fait passer quelques années dans le désert. Combien ? 40 ans dans le désert. Et au bout de 40 ans, Moïse, c'était plus le jeune homme plein de force, c'était un vieillard. Avec tout ce que ça entraîne comme faiblesse et avec tout ce que ça entraîne comme contrainte. Et puis, en plus, il avait la langue embarrassée, nous dit la parole. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a choisi de l'envoyer à nouveau et lui dire « C'est bon, tu es prêt pour partir. » Parce que cet homme, à un moment donné, a choisi de s'appuyer sur ses propres forces, mais là, il n'avait plus le choix. Il était obligé de s'appuyer que sur Dieu. Alors, bien sûr que Dieu ne veut pas que nous mettions forcément de côté toutes nos qualités, mais toutes nos qualités ne doivent pas nous conduire. C'est Dieu qui doit se servir d'elles. Je pense à cette jeune fille qui avait une voix incroyable et qui chantait dans l'église et c'était magnifique. Et puis, un jour, Dieu lui a montré qu'elle avait laissé passer en priorité son talent par rapport à ce que Dieu lui demandait. Et elle chantait, mais elle négligeait sa communion personnelle avec Dieu. Elle ne priait pas, elle ne lisait pas la Bible chez elle. Et elle chantait toujours à l'église, et c'était toujours beau. Mais un jour, elle a ressenti dans son cœur qu'il y avait un problème. Et elle a, dans sa chambre toute seule, elle a décidé, je ne chanterai plus jusqu'à ce que Dieu me le dise lui-même. Je ne vais pas le chanter par moi-même. Et ça a duré un mois, deux mois, trois mois, un an. Pendant un an, elle a arrêté de chanter, alors qu'elle avait vraiment reçu quelque chose. Hein. Mais parce qu'elle attendait le feu vert du Seigneur. Et au bout d'un an, le Seigneur a vu que son cœur s'était humilié. Il a vu qu'elle avait un talent, mais qu'elle voulait mettre ce talent entre les mains de Dieu, qu'il en fasse ce qu'il veut. Elle avait accepté de dire, Seigneur, si tu veux plus que je chante de toute ma vie, je l'accepte. Et bien, au bout d'un an, le Seigneur lui a dit, c'est bon, tu peux reprendre. Et là, quand elle chantait cette jeune fille, il y a les gens qui étaient touchés, saisis par le Saint-Esprit, convaincus de péché, parce qu'il y avait l'action de Dieu, tout simplement, parce qu'elle mettait son talent dans la direction, sous l'inspiration du Seigneur. Et c'est ce qui se passe. Oui, nous pouvons avoir de merveilleux talents, mais c'est pas parce qu'on a un talent tout seul que c'est la volonté de Dieu. Il nous faut chercher, demander à la tête du corps de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté? Si on peut vraiment résumer ce que nous devons faire quand nous cherchons le service que Dieu nous appelle à faire, il y a deux versets qui sont clés. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Un jour, frères et sœurs, nous nous retrouverons tous devant le Seigneur et nous aurons tous à comparaître par rapport à ce que nous aurons fait, qui sera pas bien, ou ce que nous aurons pas fait et qu'on aurait dû faire. Ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi il faut avoir du zèle et quand même chercher à faire des choses pour le Seigneur. Mais il y a le deuxième verset qui est là pour équilibrer tout cela. Ce n'est ni par puissance humaine, ni par force humaine, mais par le Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Des versets qui nous poussent à être zélés, mais en même temps qui nous poussent à réfléchir. Est-ce que c'est dans la direction de Dieu? Et si nous mettons en application ces versets dans notre vie, alors vous inquiétez pas, le Seigneur va pouvoir vous utiliser pour bâtir son Église, parce que l'Église est spirituelle et ne doit être bâtie que par des services spirituels. Alors le service spirituel, c'est pas seulement chanter des cantiques. Le service spirituel, c'est toutes les choses pratiques que l'on fait dans l'Église. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Un service spirituel, ça peut être envoyer un texto à quelqu'un. Ça peut aller boire un café avec une autre personne. C'est très spirituel ce que je vous dis. Oui, parce que souvent on fait une différence entre les choses de la terre et puis les choses du ciel. Mais quand je vais boire un café avec quelqu'un et que je parle du Seigneur, que je l'encourage, que je lui fais du bien, quand je mets ma main sur l'épaule de quelqu'un qui passe par le deuil, c'est très spirituel. Quand je prie avec mes enfants à la maison avant qu'ils dorment, c'est très spirituel. Que le Seigneur puisse nous montrer ce que nous pouvons faire pour que son nom soit glorifié, que l'Église soit bâtie. Si on essaye de bâtir par nos propres forces, ça ne marchera jamais. Je me souviens justement de ce don spirituel qui a été donné dans une convention pastorale. Un homme qui disait, qui prenait cette image, que Adam, Ève a été créée d'Adam, l'Église a été créée de Jésus-Christ. Et elle reprochait à une personne qui était dans l'assemblée, tu essayes de construire l'Église par tes forces humaines, par des stratégies, par des actions, et toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais il faut, l'Église est spirituelle et doit être construite par des choses spirituelles, par le Saint-Esprit. Le corps de Christ nous donne aussi cette image que nous avons besoin les uns des autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous connaissez ce passage où il est question que le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, est-ce qu'il n'est pas du corps pour autant? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous imaginez, si on avait 5 yeux et une seule main, c'est des choses qui nous dépassent. Et pourtant, c'est l'image qui est donnée dans la parole. Et des fois, tout le monde veut faire la même chose dans l'Église, alors que Dieu a choisi pour chacun une place bien particulière. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Il y a une réalité que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin. Vous avez besoin. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Vous avez besoin de la personne qui est à côté de vous. Parce que c'est la parole qui nous le dit. Parce que nous pouvons être utiles à celui qui est à côté de nous. C'est ça qui est merveilleux. Le Seigneur nous a mis les uns à côté des autres pour que nous puissions servir, mais servir dans le but d'aider notre frère, d'aider notre sœur. Et nous sommes tous différents, nous avons tous reçu de Dieu des choses particulières, mais le service que nous devons apporter, c'est pas quelque chose d'isolé. Des fois, on entend des gens qui disent « Ah, moi je sers le Seigneur, mais je sers le Seigneur chez moi et je parle à plein de gens de Dieu. » C'est très bien. Mais là, le service dont il est question, c'est le service dans le corps, dans l'Église. Merci Seigneur pour tout ce que vous faites en faveur des âmes qui se perdent. Il y a tellement de travail. Mais le Seigneur nous appelle à avoir ce service dans l'Église. À qui Jésus a-t-il montré qu'il fallait servir en lavant les pieds? Est-ce qu'il a pris les malheureux de Jérusalem? Est-ce qu'il a pris les pauvres? Est-ce qu'il a pris les gens du dehors, les pécheurs? Qui c'est qu'il a pris pour laver les pieds? À ses disciples. À ses disciples. Et il a dit en conclusion, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Si nous apprenons déjà à nous servir chacun pour notre part, alors nous aurons un cœur rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir aussi servir ceux qui sont au dehors. Bien sûr, je ne condamne pas le fait de servir. Il y a tellement de choses à faire autour de nous. Mais n'oublions pas que nous devons commencer dans le corps de Christ afin de pouvoir grandir. Amen. Notre mission, elle est claire en tant que membre du corps de Christ, c'est le service. Ce n'est pas le service isolé, mais le service sous l'inspiration de Dieu, le service spirituel, à la place que Dieu nous donne pour le bien des autres membres. Et je finis avec cette réalité que si nous, chacun, nous sommes sérieux à la place où Dieu nous met, alors il va y avoir une progression personnelle, mais une progression aussi ensemble. Tous ensemble, nous allons grandir. Imaginez un enfant dont tout le corps grandit, sauf une partie, sauf un pied, ou sauf une main, peu importe. Il y a un problème, il y a une maladie. Et qu'est-ce qui se passe si tout le corps, toute l'église de moi s'agrandit et que quelqu'un reste à ne pas grandir? C'est exactement ce qui se passe, parce que nous avons besoin les uns des autres. Il y a une union entre nous, il y a le Saint-Esprit qui nous unit. Mais si nous voulons la croissance spirituelle, il nous faut aussi vouloir servir le Seigneur. On revient et on termine avec ce texte, c'est dans Éphésiens chapitre 4, ce texte d'introduction qu'on a pris, mais on va partager quelques versets qui nous expliquent justement ce qui se passe quand on veut que ça grandisse, le contexte qu'il faut qu'il y ait dans nos vies. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Amen. Première dimension, c'est qu'il a donné des personnes particulières, des membres du corps, mais qui ont une position particulière parce qu'ils sont là pour le perfectionnement des autres membres. Ils sont là pour que les autres membres puissent rentrer dans le service. Et ça, s'il s'agit des ministères, comme on les appelle, les ministères dons, il s'agit des pasteurs, des évangélistes, etc., qui, les cinq ministères qu'on vient de lire, mais qui sont là afin de perfectionner. Et le mot perfectionner, il a plusieurs dimensions différentes. La première de ces dimensions, c'est un terme médical. Ça veut dire redresser. Mais ça veut dire remettre un os qui est déboîté, par exemple. Vous voyez, quand quelqu'un s'est déboîté, je pense toujours à mon oncle un jour qui faisait du vélo. Et puis, je ne sais plus ce qui s'est passé. Il a freiné trop brusquement. Il est passé par-dessus et il est tombé sur l'épaule. Résultat, il avait l'épaule en avant. Et il a fallu que le docteur remette ça en place. Et vous savez tous que ça fait mal. Il serre bien les dents et puis on remet ça en place. Mais on pourrait dire, mais non, mais ça ne sert à rien de remettre en place. Ça va passer. Au bout d'un moment, la douleur va s'atténuer. Oui, c'est vrai. Et l'épaule va rester comme ça. Et vous ne pourrez plus bouger le bras. Des fois, il faut redresser. Et ça parle de ce rôle que nous devons avoir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bonté, avec toute la compassion du Seigneur aussi, mais le rôle que nous avons en tant que serviteurs de Dieu, que de redresser, de corriger, s'il y a lieu, afin, c'est pas pour faire mal, mais le but, il est plus loin, c'est pour que le bras, il fonctionne, comprenez? Si nous sommes appelés, si je suis appelé à certaines fois à reprendre, ce sera jamais pour vous faire du tort, ce sera toujours pour vous faire du bien. Mais en tout cas, le but, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est la vie de Dieu qui circule. Parce que quand on est avec un membre qui est là, qui est déboîté, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et ça peut amener même jusqu'à perdre le bras si on ne fait pas ce qu'il faut. En tout cas, le perfectionnement, ça passe par le fait de redresser. Il y a aussi cette image, le fait de raccommoder ce qui est abîmé. Les disciples, c'était Jacques et Jean, ils étaient sur le bord du lac de Génézareth, et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils réparaient leur filet. C'est le même mot. Ils perfectionnaient leur filet. S'il y avait une maille qui n'était pas bien, ben ils la raccommodaient. S'il y avait des algues qui étaient là, ils enlevaient tout ça. Et le but du ministère aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que s'il y a des blessures, s'il y a des trous, s'il y a des mailles du filet qui sont déchirées, que par la grâce de Dieu, vous puissiez être guéri, restauré, et que vous puissiez retrouver toute cette plénitude qui se trouve dans la présence de Jésus. Si on vous demande un jour combien est-ce qu'il y a de ministères dans votre église, vous pouvez dire on est à peu près une cinquantaine de ministères. Parce que tous, nous sommes ministres du Seigneur. Amen. C'est pas ce qu'on vient de lire? Ah, mais moi c'est ce que j'ai lu en tout cas. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est le corps de Christ qu'il y a un ministère et chaque membre a un ministère. Vous pouvez dire que vous êtes ministre du Seigneur. Ah, vous pouvez faire la carte si vous voulez. Vous êtes dans le ministère de l'œuvre de Jésus-Christ parce que nous sommes tous, en fait, c'est le mot service. Le mot qui est là, c'est le service, c'est même le mot diaconat. Nous sommes tous serviteurs et nous devons tous rentrer dans cette réalité. Amen. Je finis avec ces versets, la suite, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand nous serons arrivés là, alors on pourra s'arrêter. Ça laisse du chemin encore, hein, on est d'accord. Mais si nous voulons grandir, si nous voulons développer l'église de Moissac, si nous voulons chacun pour notre part développer nos vies de manière personnelle par la grâce de Dieu, il nous faut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est notre modèle et nous dire, ben oui, mais est-ce que Jésus déjà n'était pas le premier à servir? Est-ce qu'il n'était pas le premier à montrer l'exemple? Est-ce qu'il n'était pas le premier à nous montrer qu'il fallait prendre soin les uns des autres, à nous aimer, etc. Quand on regarde Jésus, c'est ce qui se passe. Et il y a quelque chose qui est vrai quand on sert le Seigneur et quand on choisit de l'imiter, alors notre relation avec lui, elle est de plus en plus profonde, elle est de plus en plus enracinée. Et le verset 14, c'est ce qu'il en découle. Parce qu'il est dit « Afin que nous soyons plus des enfants flottants et embarqués à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Mais si nous approfondissons notre communion avec Jésus, il y a une stabilité. Vous savez, une semence, pour qu'elle pousse, si vous la changez de terrain tous les jours, si vous la déplantez et puis vous la replantez, et vous faites que ça tous les jours, elle va pas bien grandir. Si vous la plantez dans un endroit où il y a de la bonne terre et que vous la laissez, vous la soignez, qu'est-ce qui va se passer? Elle va grandir. Elle va prendre de l'ampleur. Et le vent qui était là, qui risquait de la faire tomber alors qu'elle était une toute petite semence, alors qu'elle aura pris de l'ampleur, ça n'aura plus le même poids. Et c'est ce qui se passe. Des fois, nous sommes embarqués à tout vent de doctrine, on court par-ci, on court par-là. Mais sinon, on nous demande de rester, de nous enraciner en lui, dans son corps. Et alors, nous verrons la progression. Je continue, hein. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et le verset 16, c'est celui qu'on a lu au début. Mais vous avez vu qu'il y a une condition qui est d'ailleurs présente dans ce verset premier. On s'édifie nous-mêmes dans l'amour. Le corps s'édifie, mais il ne peut s'édifier que s'il est enraciné, s'il est basé sur l'amour. Tout ce que nous faisons, est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par amour pour mon frère, ma sœur? Est-ce que c'est par amour pour le Seigneur? Alors, c'est bon, c'est spirituel. Mais si au fond de nous, il y a une trace d'amertume, une trace de jalousie, une trace de ceci ou de cela, n'hésitons pas, mais abandonnons-le. Et n'hésitons pas, vous savez, Je vais encore équilibrer ce verset qui nous dit qu'il faut professer la vérité dans l'amour. Des fois, on a vite fait de dire les quatre vérités à ceux qui sont autour de nous. Mais ce n'est pas forcément professer la vérité dans l'amour. Parce qu'il y a un autre verset qui nous dit « L'amour couvre une multitude de fautes. » Si j'apprends que quelqu'un qui a, je ne sais pas, 40 ans d'expérience, qui vient dans l'église, et que si j'apprends que il y a des années en arrière, il a fait quelque chose de très mal, mais qu'il s'est repenti, qu'il a tout réparé, si je l'apprends, et que je commence à le divulguer partout, parce que c'est la vérité. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Mais est-ce que c'est bon de raconter? Ben non, ça sert à rien, c'est pas utile. L'amour couvre une multitude de fautes. Mais, par contre, si je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé devant mes yeux, la Bible est claire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Essaye d'arranger le coup de manière discrète avec ton frère, pour qu'il puisse passer par la repentance, réparer, et qu'on n'en parle plus. Professer la vérité dans l'amour, c'est ça. Que le Seigneur nous aide, en tout cas, à faire toutes choses dans l'amour. Et alors nous verrons la gloire de Dieu. Lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Amen.